Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance, un nouveau direct depuis le Périgord dans nos studios de Coulommiers-Chamiers en banlieue de Périgueux. Famille, justice, enfance, votre émission sur la famille, l'étude sociologique de la famille occidentale contemporaine. Ce soir donc avec Stéphane, nous avons un nouveau direct avec Damien Lecamp qui est en visio avec nous. Vous pouvez avoir l'interview sur YouTube si vous le souhaitez également. Vous cherchez Stéphane Lambert, YouTube, Famille Justice Enfance, vous trouverez le live, le YouTube live qui sera disponible ensuite. Damien, bonjour.
Bonjour, ou ben bonsoir.
Ou bonsoir, voilà.
Sur Internet, il n'y a plus...
C'est vrai. Donc ce sera bonsoir pour ce soir et ce sera bonjour pour la rediffusion de mercredi 16h. Alors Damien Lecamp, je lis hein, sur votre site, Damien Lecamp écrit des fictions pour la télévision, le web, prête sa plume à des humoristes renommés, il a été chroniqueur à la radio sur France Inter puis Europe 1, il a coécrit notamment les papiers de Gaspard Proust dans Salut les Terriens, puis est devenu auteur des Guignols sur Canal+, et surtout, il est auteur de l'ouvrage Un père sur le banc aux éditions, on dit comment, Léo Cher, voilà, Damien. Écoutez, déjà, la présentation vous convient-elle?
Oui. Je crois que c'est le communiqué de presse ou le dossier
oui,
de presse.
Oui, c'est
donc
ça.
C'est bon, il n'y a pas.
Bon, on va rajouter que vous avez
c'est
fait.
C'est synthétique.
Vous avez fait des études de droit, puis des études de commerce, et puis, bon, visiblement, vous avez un trait de plume et vous arrivez à saisir certaines choses de nos contemporains pour les retransmettre de manière incisive. On va dire ça comme ça, gentiment, poliment. Donc. Ce livre, Un père sur le banc, la question qu'on vous a posée mille fois, mais il faut quand même définir ça. Pourquoi ce livre?
Pourquoi ce livre? Il serait un peu facile de dire « Oh, mais c'est une thérapie, c'est une psychanalyse ». En fait, rien de tout ça, puisque donc, ce livre raconte mon histoire à peu près, hein. Mais je l'ai écrite 7 ou 8 ans après les faits. Donc, totalement apaisé. Alors, l'histoire, pour la résumer rapidement, c'est celle d'un enlèvement d'enfant en Suisse. La maman est suissesse et décide de partir avec l'enfant qui a moins de 3 ans, alors que nous vivions tous les trois ensemble en banlieue parisienne. Donc, s'en est suivi une longue bataille juridique, une bataille contre moi-même, hein, pour ne pas sombrer aussi, puisqu'il y a l'absence, etc. Enfin, j'imagine qu'on va parler de tout ça. Mais au cœur de ce conflit, de cette tempête émotionnelle, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire ce roman. Plusieurs années après, donc, j'étais en paix avec cette histoire. Pour autant, l'idée ne m'est pas venue spontanément. C'est quelqu'un, c'est une copine qui m'a dit « mais quand même, ça pourrait être une histoire intéressante ». Mais alors je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais je veux écrire un roman. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler le style, j'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de livrer un témoignage brut. Et donc l'envie d'écrire, on ne peut pas la passer sous silence. C'est une motivation très importante, parce qu'encore une fois, j'étais en paix avec cette histoire. Je n'avais pas forcément besoin de l'exorciser sur le papier.
On va le dire, il y a beaucoup d'humour. J'avais reçu à l'époque ici l'auteur de l'ouvrage Un parricide d'ordinaire, qui lui aussi s'exprimait avec beaucoup des grands éclats de rire en lisant son ouvrage. Votre livre, hein, donc sur le site de l'éditeur, on peut voir des extraits qui sont disponibles. Vous le prenez sous l'angle, vous faites, je dirais pas, vous avez fait bonne fortune, bon cœur, mais on sent l'humour satirique, caricatural, un peu noir, mais il y a de l'humour.
Oui, alors pour rebondir sur ma réponse précédente, peut-être aussi que le fait d'écrire plusieurs années après donc, me permet d'avoir un recul suffisant. Et de,
vous avez maturé tout ça.
Oui, et de parler de tout ça avec humour, ironie parfois. Et puis, il y a peut-être aussi un petit peu de déformation professionnelle, parce que pendant des années, j'ai écrit des sketchs, j'ai écrit pour la scène, j'ai moi-même été sur scène, etc. Donc, c'est peut-être mon péché mignon aussi. Après, Il y avait un double enjeu dans l'écriture. Déjà, je ne voulais pas que l'histoire soit trop lourde, qu'il y ait trop de pathos. Donc, l'humour permet aussi de désamorcer un petit peu ça.
Il rend les messages parfois plus. Bien sûr.
Et effectivement, ça peut donner plus d'impact aussi au message. Et puis, l'écueil aurait été de tomber dans la blagounette aussi, l'envie de faire des vannes, et on perd un peu en sincérité. Donc, c'est un équilibre à trouver. Entre la sincérité, l'envie de s'amuser aussi avec le style, comme je vous disais, l'humour permet ça, mais il faut utiliser l'humour à bon escient, disons, pour qu'il vienne soutenir les émotions, soutenir le propos, et non pas diluer les émotions et perdre un petit peu le lecteur.
Mais beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que vous avez écrit. Vous savez que l'ADN, je ne sais pas si vous savez, mais l'ADN de l'émission, les auditeurs le savent, au départ, c'était... les revendications de l'égalité homme-femme dans les conflits familiaux, en fait, c'était les pères qui n'arrivaient pas à voir leurs enfants. Voilà, avec les permanences, avec ce genre de choses. C'était les racines il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est de là que ça venait avant de dériver sur la famille en général, la protection de l'enfance. Mais pour avoir assisté, et pour continuer, moi, d'assister un grand nombre de pères majoritairement, parce que c'est eux qui viennent me voir naturellement, même si, voilà, qui sont confrontés au JAF et à ce genre de choses pour la première fois. Ce que vous décrivez dans votre scène d'introduction, mais on s'y reconnaît quasiment tous. C'est impressionnant. Ouais. C'est un schéma, mais que j'ai vu, moi, dans des dossiers juridiques, des dizaines, des centaines de fois. C'est quasiment toujours le même. Tu as un mot qui arrive te disant que voilà, bah, tu vas apprendre que t'es séparé. Et puis au départ, il y a un arrangement qui, on se le fait à l'amiable et puis il est sympa. Et puis quand on arrive un petit peu, l'enfant devient un petit peu, la carotte un petit peu éloignée et on commence à monnayer. Et puis en fait, après, devant le juge, on se fait défoncer. C'est malheureux, hein, mais malheureusement, c'est un schéma qui se répète encore et encore. Et moi, je le dis aux gens, vous lisez, vous allez vous reconnaître avec humour. Hein, mais ceux qui ont vécu ce parcours-là, ce parcours-là a été croqué de manière remarquable.
Merci. Il est vrai que en écrivant, c'est-à-dire que quand on vit ce genre de choses, alors si vous avez de nombreux parents ou pères, si j'ai bien compris, qui vous contactent à ce sujet, c'est quelque chose. On n'est plus que ça. On n'est plus que procédure. On est vraiment, toutes ces années de ma vie, il n'y a pas un jour où je ne pensais pas à mon enfant, bien sûr, même après l'avoir, la première instance, par exemple, où la juge d'affaires familiales m'a confié la garde exclusive. Après, il y a eu des appels, etc. Bon, ce sont des procédures toujours très longues. Même là, je n'étais pas complètement rasséréné.
Vous avez eu la garde exclusive de votre enfant ?
Oui, en fait, dans le cas juridique précis, la mère a fait ce que l'on appelle un déplacement ici de domicile, mmh, ou enlèvement intentionnel d'enfant, ce sont les termes de la convention de l'AE. Et donc, en fait, plutôt que de parler de garde exclusive, la juge a répondu au problème de droit qui était soulevé et a constaté, dans le sillage du tribunal cantonal de Lausanne, qui était, parce que la mère donc, a enlevé l'enfant en Suisse, qui a statué précisément sur cette question, c'est de l'enlèvement intentionnel d'enfant. La juge de Nanterre, la juge française qui, elle, devait statuer sur le fond, quel parent obtiendra la garde, a résolu le problème juridique en disant qu'il y avait en effet déplacement ici de domicile. Donc, elle s'est placée au-dessus du conflit. Elle n'a pas dit tel parent est plus apte à accueillir l'enfant que l'autre. Simplement, elle a dit... il n'y aurait pas dû avoir un déplacement de domicile, donc le domicile de l'enfant juridiquement est en France avec le père en banlieue parisienne, donc on le maintient auprès de son père, et je pense que la juge à ce moment-là tablait sur un retour de la mère près du lieu de vie de l'enfant. Je pense qu'elle s'est dit ça, la juge. Elle s'est dit, bon, bah, la mère vivait depuis 3 ans avec le père et l'enfant à côté de Paris, elle est repartie en Suisse, c'est peut-être qu'un caprice après tout, et si l'enfant vit en France, elle reviendra. C'est vrai que ça semblait couler de source, et à l'époque, je sondais beaucoup de mamans ou femmes futures mamans.
Non, ça coulait pas de source.
Et toutes me disaient, moi, je reviendrai.
Oui,
mais ça. Mais elle n'est pas revenue et elle a continué en fait à se battre après pour essayer de puis à ce moment-là d'inverser la décision et d'obtenir la garde exclusive en Suisse. Donc ça a été un long combat, mais en tout cas qui a été résolu en première instance par cette décision finalement de droit. La juge a dit le droit.
Ouais, c'est rare. Je vais devoir vous dire que c'est extrêmement rare parce que j'ai vu passer moult exemples. Et si vous voulez, la juge, elle a laissé l'enfant avec la maman. En situation conflictuelle, c'est-à-dire, je veux dire, lorsqu'il y a désaccord sur les modalités de garde, les statistiques qu'on a de 2011, on a beaucoup de mains dans des plus récentes, en situation de désaccord, les pères ont 7% de garde. Et ça comprend les mères qui sont réellement dysfonctionnelles et les enfants adolescents qui imposent leur point de vue. C'est-à-dire qu'en situation de désaccord, donner la garde exclusive au père, c'est quelque chose qui est statistiquement rare, en tout cas en France, chez nous.
Ouais.
Et bon, après, vous direz, nous, on voit venir que les gens qui se plaignent. On voit pas venir ceux qui ne se plaignent pas. Donc, effectivement, parmi les gens qui se plaignent, où ça se passe pas bien, dans les dossiers que je vois, ils ont pas ce qu'ils veulent. Donc, il faut aussi que je modère mon propos par rapport à ça. Mais c'est aller au JAV, demander la garde exclusive d'un conflit et l'avoir. Oui, vous êtes notre héros à tous, là, quand même. Hein.
Surtout que l'enfant était un enfant en bas âge. Mon fils avait 2 ans et demi à ce moment-là. Donc,
ah bah oui,
les chances de gagner étaient infimes. Mais mon avocate, que je salue, qui était excellente, elle a pris sa retraite aujourd'hui, me confirmait vos chiffres. Elle me disait, dans le cas d'un conflit, s'il n'y a pas d'entente pour une résidence alternée ou lorsque celle-ci est impossible parce qu'il y a éloignement géographique ou autre, oui, dans 90% des cas, on va dire, la décision est en faveur de la mère. Ça comprend aussi des décisions où ça arrange bien le père aussi, qui ne veut pas avoir la garde exclusive, mais lorsqu'il y a bataille sur ce sujet-là, oui, souvent la mère l'emporte.
Ah, attendez.
Il y a peut-être ce réflexe
de
dire l'enfant en bas âge va avec la mère.
Oui, mais ça, on l'entend un petit peu trop. Ça arrange bien le père qui ne voulait pas la garde exclusive. À ce compte-là, il n'y a pas de désaccord. À ce compte-là, il est d'accord. Donc, il ne rentre pas dans la grille de désaccord.
Oui, oui, oui.
Il y a des gens, effectivement. Enfin, moi, je ne suis pas là pour défendre ceux qui se comportent mal ou qui ne veulent pas, si vous voulez. On demande une équité, puis on demande une espèce d'égalité qui reconnaît la situation d'aujourd'hui, en 2025, en France, en Occident, si vous voulez, où on a des comportements qui sont très différents de ceux de nos grands-parents, de nos grands-parents. Les enfants en bas âge, on s'en occupe d'une manière très différente que le faisaient nos aïeux. Et Dieu merci. Dans les cas où effectivement le père et la mère ne sont pas d'accord, dans ces cas-là, où le père s'affirme en disant « je voudrais avoir ce rôle d'éducant, je souhaiterais avoir ce rôle de parent », s'il y a un désaccord, c'est compliqué. Voilà, il faut le savoir, c'est quand même compliqué.
Oui. C'est vrai, c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que certainement mon éditrice a parié sur ce livre. Il raconte une histoire qui pour certains relève peut-être de la fable. C'est statistiquement très rare et c'est un combat très compliqué. Le conseil que m'avait donné mon avocate alors, c'était subissez, soyez une victime, c'est votre seule chance peut-être de gagner. C'est vrai qu'elle m'avait dit vous êtes le père, vous ne partez pas gagnant. Donc, subissez. Pourquoi elle m'avait dit ça? Parce que moi, je lui avais dit, je vais aller là-bas en Suisse, c'est pas possible. Je vais aller retrouver mon fils, au moins pour le voir. Je comptais même pas faire un scandale, mais juste le voir. Et elle me disait, mais si vous faites ça, ça je l'écris d'ailleurs au chapitre 2, vous allez avoir droit à une volée de témoignages qui diront que vous avez été violent, que vous avez cassé la porte, que vous avez tapé sur la mère, etc. etc. Donc vous avez tout à perdre à faire ça.
Le moindre franchissement de ligne rouge est pénalisé. Tout à fait. Il faut vraiment se comporter comme il faut parce que la moindre défaillance va être utilisée dans ces cas-là.
C'est tout à fait vrai, mais moi je comptais me comporter comme il faut. Je voulais juste voir mon enfant, ne serait-ce que le serrer dans mes bras. Et voilà. Donc, mais il y aurait eu cela en retour. Et donc elle me disait subissez, prenez votre mal en patience, faites ce qu'il faut en termes de procédure, et puis advienne que pourra. Mais c'était son conseil. Et je note d'ailleurs qu'en première instance. Donc la juge a fixé le domicile de l'enfant chez moi, c'est ce que je raconte dans le livre. Mais malgré la distance, c'est vrai que, mais c'est tout à l'honneur de la juge, la mère a eu un droit de visite élargi, à raison de 2 week-ends par mois, des périodes de vacances en intégralité, la Toussaint, les vacances d'hiver, etc. Parce qu'elle avait écrit noir sur blanc qu'il était impensable de, et je peux tout à fait l'entendre, de rompre le lien entre l'enfant et sa mère, parce que la mère est la mère.
Mais le parent et le parent, on ne rompt pas un lien d'attachement qui est déjà établi, on l'a évoqué
de multiples fois. On est d'accord, fois, mais donc, il y a peut-être ce réflexe encore discutable, parce qu'évidemment, un père investi toujours mieux qu'une mère défaillante, mais dans l'absolu, il y a peut-être encore ce réflexe de dire qu'un enfant en bas âge a un besoin, peut-être, c'est peut-être discutable, il y a des pédopsychiatres qui vous diront que c'est vrai, d'autres que non.
Les recherches universitaires récentes montrent que c'est vrai jusqu'aux quatre pattes. En fait, le quatre pattes qui est le prolongement de l'objet transitionnel, et là, l'enfant n'a plus le besoin. En fait, il se sépare du corps quasiment fusionnel auparavant, et il commence à accéder au monde via des intermédiaires, le quatre pattes et autres. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus les besoins biologiques. Et les recherches universitaires récentes montrent que l'implication des deux parents est très 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 bénéfique à l'enfant, et que le laisser uniquement à la mère lui fait perdre quelque chose. Donc en fait, le père contemporain d'aujourd'hui qui veut être présent auprès de son enfant, 2, 3, 4 ans, en fait, est un père responsable qui fait du bien à son enfant. Il faut le savoir, il faut l'entendre.
C'est très bien de le faire.
Voilà.
Je prêchais un converti, évidemment.
Oui, mais c'est scientifique, si vous voulez. J'ai les études, j'ai les liens, tout ce qu'il faut pour
et
tout. Mais on n'entend pas assez, voilà, il faudrait quand même le dire.
Mais c'est intéressant, cette étude, d'autant qu'à ces études, les avocats ou avocates de mauvaise foi opposent ce qu'ils appellent peut-être ce qui serait communément admis. Par exemple, je me souviens de l'avocate de madame qui, à l'audience, avait dit « Tout le monde sait ». Tout le monde sait. Quand une phrase commence par « Tout le monde sait »,
ah oui.
on sent la malhonnêteté intellectuelle. Tout le monde sait que le temps de la maman, c'est jusqu'à l'adolescence, et que le temps du papa arrive à l'adolescence. Donc j'imagine pour être celui qui vient rompre le lien, le cordon ombilical, etc., et mettre des limites. Ça me paraît un peu tard quand même, l'adolescence. Donc évidemment, c'était une grande mauvaise foi, mais elle jouait peut-être sur un cliché, sur une croyance communément admise, mais erronée. Peut-être qu'effectivement la science vient la contredire, mais moi, c'est l'empirisme qui parle au quotidien auprès de mon fils. Je ne fais que le contredire, puisque je m'occupe seul de lui maintenant depuis 7 ans. Il a 10 ans et demi. Et évidemment que je pense être modestement très important pour lui. Mais je veille évidemment à ce qu'il ait toujours accès à sa maman, qui a un droit de visite et d'hébergement. Et malgré toutes les crasses, je mets ça de côté, je pense à son intérêt supérieur, et je ne ferai jamais en sorte, en tout cas, de rompre ou de mettre des bâtons dans les roues de la mère pour qu'elle ait accès à son enfant.
Vous êtes passé par les permanences pour les pères sur Paris, les SOS Papa, ce genre de choses, juste pour savoir?
Non, alors non, non, pour une raison simple, c'est que, à tort ou à raison, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu affaire à SOS Papa, par exemple, mais j'ai entendu que c'était vu comme une association politisée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela pouvait être mal vu par certains juges, peut-être politisé, mais de l'autre bord. Donc j'ai préféré, alors c'est peut-être bête, mais j'ai préféré prendre une avocate déjà, parce que je ne voulais pas l'image de deux hommes contre deux femmes au prétoire. Et ensuite, c'est vrai que j'ai voulu m'affranchir de toutes ces associations ou autres, parce que elles font peut-être un travail formidable, encore une fois, je ne suis pas en mesure d'en parler, mais je craignais l'image qu'elles pouvaient avoir devant le juge.
Je voulais dire uniquement au niveau des permanences de soutien et de conseil. Après, c'est beaucoup moins intéressant pour les raisons que vous êtes en train de dire. Par contre, aller parfois dans un... nous, on dit, lorsque vous arrivez devant une situation difficile ou compliquée... entourez-vous, allez créer du lien avec d'autres personnes, faites des échanges d'expériences avec des personnes qui ont déjà vécu ce même parcours. Mettez-vous à plusieurs pour discuter, pour parler, pour vous soutenir mutuellement. C'est dans ce cadre-là en fait que je disais.
Oui, je pense que c'est très important. Je ne l'ai pas fait.
D'accord.
Je ne l'ai pas fait. Néanmoins, j'en ai parlé à mes amis. Enfin, je l'ai fait d'une autre façon.
Oui,
j'en parlais à mes amis, j'en parlais à ma famille. J'avais beaucoup de soutien. beaucoup de soutien de femmes d'ailleurs, donc encore une fois, c'était pas du tout une question de guerre des sexes ou autre.
Non, il faut sortir de la guerre des sexes, c'est très, voilà, et ça, c'est ça. Très important, il faut sortir de ça.
Énormément de femmes autour de moi, elles connaissaient très bien l'histoire, elles étaient à 100% de mon côté, donc non, c'est vrai qu'il est très important d'en parler, mais c'est comme quand on souffre d'une maladie, on peut en parler, on peut parfois on est malheureusement bien seul et les autres peuvent pas toujours être présents, les autres peuvent pas toujours comprendre, et il faut aussi accepter, être prêt à affronter seul ce genre de d'épreuves. Il faut en avoir conscience que l'on est seul, et il faut être armé pour pas être déstabilisé, parce qu'il y a des moments très sombres lorsque l'on est privé de son enfant et qu'on fait tout pour le revoir et que cela semble impossible.
Oui, et puis il faut dire aussi que l'environnement judiciaire est un environnement qui est violent. On se demande d'ailleurs pourquoi une séparation se passe au tribunal. Froid, le tribunal, c'est pour punir. On se demande pourquoi on arrive dans ces lieux avec ces gens qui normalement parlent à des criminels ou à des délinquants qui sont là uniquement pour voir les choses uniquement de manière conflictuelle, qu'il faut payer, et puis qui sont là parler de nos enfants comme des boîtes de raviolis. Parfois, on se pose la question.
Ben, c'est pour ça que j'insiste aussi... Ne serait-ce que pour la démarche, même si elle est inopérante, je pense que c'est toujours un bon point d'aller voir d'abord des médiatrices familiales.
Voilà.
Surtout des médiatrices.
Exactement.
Et pas des médiateurs d'ailleurs. Non,
exactement.
Ça, c'est important, oui. Parce que si c'est rejeté par l'autre partie, la juge, là encore je dis la juge, que les JAF sont essentiellement des femmes, la juge notera qu'une partie a quand même été, a quand même eu une bonne volonté à essayer de nouer ou renouer le dialogue. Et puis, si d'aventure l'autre partie accepte, c'est toujours intéressant de se retrouver devant une médiatrice. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer avec la mère aussi, parce que lors d'une autre intervention d'une JAF, parce que j'ai connu beaucoup d'audiences, une juge a même imposé un passage devant une médiatrice. Est-ce que ça
c'est
a
bien. C'est rare,
concrètement,
mais c'est bien.
Je ne sais pas, mais en tout cas. Ça permet de discuter. Après,
ça se tente.
C'est toujours pareil.
Il faut déjudiciariser au maximum et il faut tenter dès qu'on le peut.
C'est sûr.
Nous, les meilleurs résultats qu'on a sont des avocats qui ont fait des formations, justement, de négociation et qui ne se comportent pas comme des mercenaires ou des snipers. Ce sont des gens qui essayent toujours, qui ne sont pas dans le conflit. Et c'est ceux-là, nous, on voit, qui obtiennent les meilleurs résultats sur la durée.
Ça, c'est certain. Les juges apprécient, de toute façon, les démarches. Diplomatique, ce qui va dans le sens du dialogue, de l'entente, et ce sera toujours mal vu d'être le parent qui refuse ses mains tendues.
Ok. Petite question, Damien Lecamp. J'arrive de l'étranger, j'ai passé plus de 10 ans à l'étranger, et quand je suis arrivé en France, j'ai eu l'impression d'être un ovni. J'étais plus un père, j'étais un parent d'eux. J'étais plus un client de l'État. L'école travaillait plus pour moi, le docteur non plus. Ma fille m'appartenait plus. Et je me suis demandé ce qui se passait. Vous, là, je vois dans votre communiqué de presse, vous parlez aussi de parents d'eux. Vous dites aussi que difficile de brandir l'étendard du père. Qu'est-ce qui se passe en Occident? Est-ce que c'est mal d'être qu'est-ce qui vraiment? Pourquoi est-ce qu'on est devenu comme ça?
Là, c'est un cas concret que vous me donnez, quelqu'un qui arrive de l'étranger.
C'est moi, en l'occurrence, c'est moi. Voilà, donc je le connais bien, ce cas-là. Mais
D'accord. Et c'était de quel pays, si je peux me permettre?
J'étais en Asie du Sud-Est. Voilà.
Ah, parce qu'au Japon, par exemple, je ne sais pas si c'était le Japon, je sais que malheureusement, les pères qui connaissent des cas analogues avec des mamans qui repartent vivre au Japon, qu'ils ont rencontré en France, n'ont quasiment aucune chance de revoir leur enfant.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans les cas de famille traditionnelle, le père a une importance, et j'ai l'impression dans l'environnement social qu'il y a, on l'a traité ici de multiples fois, la position du père est attaquée, c'est de manière très souvent un préalable à la position de la mère qui est difficilement tenable, en famille monoparentale notamment, et on arrive ensuite au problème des placements et autres, et ça pose un vrai problème sociétal en fait, qui est la destruction de la famille traditionnelle, et vous et votre regard, parce que c'est pas forcément à France Inter qu'on va l'entendre comme ça, mais vous, votre livre, il a quand même un regard qui est particulier. Votre regard, il dit quoi de tout ça?
c'est, alors, ce que je précise souvent, c'est que j'ai pas écrit un livre politique. Après, on peut considérer que tout est politique.
C'est de la sociologie, ça, hein, sociétal, hein, purement, c'est tout.
Oui, ou bien, oui, bien sûr, mais enfin, c'est un combat à hauteur d'homme et qui est très personnel. Donc, c'est le combat d'un père au nom de l'amour paternel.
D'accord.
Il est tangible, il existe, il n'est pas moins fort, moins remarquable que l'amour paternel. Alors, est-ce que vraiment il serait déprécié, est-ce que la figure du père... Oui, vous l'avez souligné, peut-être que c'est la famille traditionnelle qui est un petit peu attaquée, peut-être. D'une façon générale, alors je suis pas sociologue, mais on traverse une époque où l'individualisme est exacerbé, donc les familles explosent, les couples ne tiennent plus, tout ça converge vers une instabilité. C'est probablement difficile pour le père de trouver sa place là-dedans. Est-ce que maintenant il est vraiment attaqué, déprécié? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'exemples autour de moi de pères très investis, ça, c'est sûr.
Ah, ça, oui,
est-ce absolument. Que, est-ce que leur investissement est vu à sa juste valeur? Je ne sais pas. De toute façon, on ne s'occupe pas de nos enfants pour avoir des médailles. Mais quand je vais à l'école chercher mon enfant, il y a toujours une majorité de mamans, mais je vois quand même de plus en plus de papas qui sont là,
qui poussent
et ils sont pas seulement là pour aller chercher leur enfant, on sent qu'ils sont là parce que ils ont envie d'être là, ils aiment ça, ils sont investis, et j'en vois quand même de plus en plus.
Ah mais oui.
Et je vois énormément de pères aimants autour de moi, donc si vraiment la figure du père est attaquée, c'est dommage parce que je vois de plus en plus de pères investis et qui veulent s'investir et qui le font spontanément et naturellement.
Oui, tout à fait, et qui se comportent. Encore une fois, ce sont des comportements qui sont bénéfiques pour l'enfant au niveau de la science et qui sont assez différents de l'existant d'auparavant.
Oui, et puis bon, après, tout bêtement aussi, il y avait plus les mamans avant, enfin, peut-être plus déjà nos grands-mères étaient à la maison, elles étaient un petit peu assignées à ces tâches-là, dans la société traditionnelle.
Depuis la révolution industrielle.
J'y vais à grands traits.
On en a parlé avec Catherine Castelin-Meunier. On en a parlé Castelin-Meunier, c'est depuis la révolution industrielle. Dans le bas-peuple, avant, c'était quand même assez équilibré.
C'est ça. Il a fallu faire des femmes, des consommateurs et des consommatrices comme les autres. On les met dans le système marchand, il n'y a pas de problème. Et forcément, la famille en pâtit. Et s'il n'y a plus un parent à la maison, que ce soit... père ou la mère, et bien chacun doit aussi assumer ses tâches. C'est toujours pareil, il y a une part de micro, une part de macro, ça vient de nous, on a envie de s'investir, mais il y a aussi l'organisation de la société qui fait que si on fait des enfants, on est même obligé et contraint de s'investir un minimum, parce que
il y a une volonté de l'État aussi de s'introduire dans la famille pour, je dis, presque éduquer les enfants et leur transmettre des valeurs qu'il estime être prépondérantes.
Donc ça, des programmes scolaires, par exemple, au niveau des programmes scolaires, des choses comme ça
de tout, en fait, l'intrusion de l'État, elle se voit au niveau des services sociaux, la définition des violences intrafamiliales, si vous êtes dans une société traditionnelle, comme on peut voir au Maghreb, en Afrique, en Asie du Sud-Est, le parent, en fait, est beaucoup plus présent auprès de son enfant qu'il ne peut l'être en France. L'État l'est beaucoup plus que dans ces pays-là.
Ah oui. J'ai un ami qui vit en Thaïlande avec une Thaïlandaise. Donc,
moi j'étais là-bas. Voilà.
Combien la famille thaïlandaise, enfin, l'éducation de l'enfant est l'affaire de toute la famille, d'ailleurs, tout le monde participe, tout le monde, et puis les mamans, pour le coup, sont extrêmement investies. Et délestent beaucoup, d'ailleurs, les papas de leur travail d'éducation.
Alors, je propose, si vous le voulez, si vous voulez bien, qu'on poursuive cette discussion sur notre direct YouTube. Je dis aux éditeurs de RLP qu'on se voit la semaine prochaine. Portez-vous bien, soyez sages, la suite des programmes sur RLP.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.